Chers amis des cellules, bonjour. En cette semaine, je voudrais vous parler de l'Immaculée Conception. Rappelons d'abord que si ce dogme a été proclamé relativement récemment par la bulle Ineffabilis Deus du pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est le fruit d'une réflexion qui est longue et qui date des premiers siècles de l'ère chrétienne. Ne nous trompons pas non plus, l'Immaculée Conception est à distinguer d'autres réalités de la foi. L'Immaculée Conception, c'est le fait que Marie ait été préservée du péché originel. C'est-à-dire que dès sa conception, Marie a été préservée de la tâche, de la souillure du péché originel. Ne confondons pas ce que font beaucoup de gens, l'Immaculée Conception d'un côté, et la conception virginale de Jésus par Marie de l'autre. La conception virginale de Jésus par Marie signifie que Joseph n'intervenait pas dans la conception de Jésus. L'Immaculée Conception doit aussi être distinguée de l'affirmation de la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui à partir d'un texte de Benoît XVI publié lors de l'Angélus du 8 décembre 2012. Je lis le début du texte. « À vous tous, bonne fête de Marie Immaculée. En cette année de la foi, je voudrais souligner que Marie est l'Immaculée en raison d'un don gratuit de la grâce de Dieu, qui a toutefois trouvé en elle une disponibilité et une collaboration parfaite. En ce sens, elle est bienheureuse parce qu'elle a cru, parce qu'elle a eu une foi solide en Dieu. Marie représente le reste d'Israël, la racine sainte que les prophètes ont annoncée. En elle sont accueillies les promesses de l'ancienne alliance. » Relevons rapidement deux choses. La première, c'est que le fait que Marie soit préservée du péché est un don gratuit de la grâce. C'est-à-dire que Marie est la première des sauvés, pourrait-on dire. Marie est la première des sauvés par la mort et la résurrection de son fils Jésus. Il y a une grâce qui lui est donnée par anticipation de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors c'est difficile pour nous à comprendre si nous nous plaçons simplement dans la chronologie du temps humain, mais cela se comprend si nous nous souvenons que Jésus est aussi vrai Dieu, et donc que tout ce qu'il accomplit retentit, rejaillit sur l'entièreté de l'histoire des hommes, pas sur simplement ce qui lui succède dans l'histoire des hommes, mais sur toute l'histoire des hommes, parce que, en tant que Dieu, il surplombe l'histoire. Deuxième élément à relever, en Marie, la grâce de Dieu trouve une disponibilité et une collaboration parfaite. C'est ce deuxième point que Benoît XVI va essentiellement développer lors de son intervention de cet Angélus. Je reprends la lecture. En Marie, la parole de Dieu trouve une écoute, une réception, une réponse. Elle trouve le oui qui lui permet de devenir chair et de venir habiter parmi nous. Reprenons ces éléments. En Marie, la parole de Dieu trouve une écoute. Une écoute, c'est une ouverture. Une écoute, c'est une attention. Une écoute implique de se tourner vers celui qui parle. Écouter, c'est faire silence pour entendre. Écouter, c'est prêter l'oreille pour entendre la parole qui est émise. Notons que cette attitude nous permet de relire notre propre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Est-ce que nous faisons silence de tous nos soucis, de toutes nos préoccupations pour l'écouter? Est-ce que lors de la liturgie ou en lisant la Bible, nous y accordons toute notre attention? Ou bien notre attention est divisée à travers ce qui se passe autour de moi? Suis-je ouvert, bienveillant vis-à-vis de la parole de Dieu, ou bien est-ce que j'estime qu'elle n'a pas grand-chose à me dire ou à m'apporter? La Vierge Marie écoute la parole de Dieu. On nous dit aussi que la parole de Dieu trouve en Marie une réception. Une réception, c'est un élan, c'est une initiative pour accueillir. Imaginez que vous recevez quelqu'un chez vous, vous lui dites d'entrer, vous le débarrassez de son manteau, vous l'invitez à s'asseoir, vous lui dites bienvenue. S'il vous est cher, vous le prenez dans vos bras et vous l'embrassez. La parole de Dieu trouve en la Vierge Marie cette disponibilité, cet accueil bienveillant, ce désir même qui, face à la parole de Dieu, dit « Viens, je veux que tu entres en moi, je veux que tu touches ce que je suis au plus profond de moi, je veux t'accueillir dans mon intelligence, je veux t'accueillir dans ma mémoire, je veux que tu touches mon cœur. » Comme on enfile un vêtement près du corps, la Vierge Marie se revêt de la parole de Dieu. Comme on se nourrit d'un aliment qui nous donne des forces, la Vierge Marie se nourrit de la parole de Dieu. Là encore, cela nous donne des indices pour regarder comment nous sommes réceptifs à la parole de Dieu, comment nous sommes accueillants, comment nous désirons qu'elle vienne dans tout ce que nous sommes, mémoire, intelligence, volonté, cette espérance que nous avons, qu'elle nous touche au plus profond de nous-mêmes. La parole de Dieu trouve, nous dit Benoît XVI, en Marie, une réponse. Voilà que la parole de Dieu qui est entendue, qui est accueillie, appelle, attend de notre part une réaction qui est une réponse. Il y a quelque chose à dire en retour. Il y a donc un mouvement de notre part à donner à Dieu en retour à sa parole. Elle ne nous laisse pas passifs, elle appelle à une action en retour de notre part. L'accueil de l'initiative de la liberté de Dieu qui nous parle, qui s'adresse à nous, suscite une réponse de notre liberté qui se met en marche avec le Seigneur. La parole de Dieu n'est pas qu'une manifestation d'une expression qui se suffirait à elle-même. La parole de Dieu, c'est une véritable parole d'alliance, comme la demande en mariage d'un époux, qui appelle une réponse, si possible positive. C'est elle qui est espérée, en tout cas. Mécaniquement, ce n'est pas obligatoire, mais elle est espérée, et si cette réponse est positive, alors ces deux libertés qui se rencontrent et qui se donnent l'une à l'autre vont ne faire plus qu'une, elles vont ne faire plus qu'une seule chair. Et c'est ainsi que, dit Benoît XVI, la parole de Dieu trouve en Marie le oui qui lui permet de devenir chair et de venir habiter parmi nous. Il y a une dimension nuptiale de la parole de Dieu que la Vierge Marie assume entièrement. Elle reçoit cette parole de Dieu, elle l'épouse entièrement, et l'épousant entièrement, elle lui donne de prendre chair en elle. À la suite de la Vierge Marie, croyons-nous à cette union de la parole de Dieu avec notre être? Croyons-nous que la parole de Dieu attend notre oui, comme on pourrait attendre un pont pour passer d'une rive à l'autre, pour être rejoint? Le oui est ce pont que nous dressons vers Dieu pour qu'il vienne s'unir à nous, saisir toute notre vie, la transformer, l'illuminer de sa présence et lui donner de rayonner en nous comme le vitrail donne au soleil de rayonner d'une façon toute particulière à travers la spécificité de son être, la singularité de son être. En Marie, continue Benoît XVI, l'humanité, l'histoire s'ouvre réellement à Dieu, accueille sa grâce, sont disposées à faire sa volonté. Marie est l'expression authentique de la grâce. Elle représente le nouvel Israël que les Écritures de l'Ancien Testament décrivent à travers le symbole de l'épouse. Et saint Paul reprend ce langage dans la lettre aux Éphésiens lorsqu'il parle du mariage et qu'il dit que le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. En évoquant ce passage de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, où l'Église est présentée comme l'épouse sainte et immaculée, le pape manifeste que la Vierge Marie est cette figure de l'Église. La Vierge Immaculée Conception est la figure de l'Église, épouse du Christ, sainte et immaculée. Alors, prenons garde simplement à ne pas mélanger les images, à strictement parler, Marie est la mère du Christ. Hein. Marie ne devient pas l'épouse de Jésus. Marie, on peut dire, elle est l'épouse de l'Esprit-Saint, mais elle n'est pas l'épouse de son Fils. Il n'y a pas d'inceste derrière cela. En revanche, Marie évoque cette figure de la Jérusalem nouvelle, de la fille de Sion, du peuple de Dieu, fidèle au Seigneur, du peuple de Dieu qui apparaît comme l'épouse de son Dieu époux. C'est-à-dire qu'il épouse le projet de Dieu, un peu pour prendre une image, comme un vêtement très fin épouse les formes du corps qu'il revêt, et épousant parfaitement le projet de Dieu, il en devient fécond, à la manière de l'épouse qui, se donnant à son époux, en devient enceinte, féconde, et mettra au monde le fruit de cette union. Le pape continue, « La lumière qui émane de la figure de Marie nous aide également à comprendre le véritable sens du péché originel. En Marie, en effet, est pleinement vivante et à l'œuvre cette relation avec Dieu que le péché brise. En elle, il n'y a aucune opposition entre Dieu et son être. Il y a une pleine communion, une pleine entente. Il y a un oui réciproque de Dieu à elle et d'elle à Dieu. Marie est libérée du péché, car elle est toute de Dieu, entièrement expropriée pour lui. Elle est pleine de sa grâce, de son amour. » Il est important que nous comprenions la beauté de ce que permet cette plénitude du don que la Vierge Marie fait à Dieu en réponse à son initiative. Elle se donne entièrement, et en se donnant entièrement, reçoit la grâce de l'accueillir entièrement. Et en s'étant donné mutuellement l'un à l'autre, un fruit humano-divin est donné au monde. Prenons conscience que Jésus, qui est Dieu, ressemble à la Vierge Marie. Et que la joie de Dieu, justement, c'est de se manifester au monde à travers notre humanité, non pas malgré notre humanité. Il ne s'agit pas que nous nous soyons effacés, ayant disparu devant lui, mais que justement nous devenions pleinement nous-mêmes, et qu'en étant pleinement nous-mêmes, sa présence soit révélée. De la même façon que l'enfant évoque chacun de ses parents, eh bien le fruit de notre alliance avec Dieu évoque à la fois le don de Dieu et le don de nous-mêmes. Et c'est ça la grande beauté du dessein de Dieu qui nous est évoqué dans l'Immaculée Conception, c'est cette possibilité renouvelée de donner au monde cette manifestation de Dieu humano-divine, divino-humaine, où le vrai visage de l'homme apparaît uni à Dieu, où le visage de Dieu apparaît uni à l'homme. Peut-être nous est-il arrivé de goûter cela en rencontrant certaines personnes dont le sourire évoquait pour nous le sourire de Dieu, dont la capacité d'écoute ou dont le sens du service évoquait pour nous le service même de Dieu. Eh bien, elle nous donnait à ce moment-là un exemple de ce que Dieu veut réaliser pour la vie et la joie du monde. Cette union de l'être humain et de la présence divine au cœur même de l'être humain. Le pape conclut, « En conclusion, la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie exprime la certitude de foi que les promesses de Dieu se sont réalisées, que son alliance ne faillit pas, mais a produit une racine sainte dont a germé le fruit béni de tout l'univers, Jésus le Sauveur. L'Immaculé démontre que la grâce est capable de susciter une réponse, que la fidélité de Dieu s'est engendrée une foi véritable et bonne. Chers amis des cellules, dans cette lumière de l'Immaculée Conception, unissons nos cœurs au cœur de la Vierge Marie pour nous donner entièrement dans la réponse à la parole de Dieu, pour donner tout notre être en réponse à la parole de Dieu et produire dans notre vie aussi un fruit d'union à la présence divine, un fruit qui réjouisse le cœur des hommes en apportant la miséricorde et l'espérance. Je vous souhaite de bons échanges.